Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, pasteur Serge Alexandre, dans l'émission évangélique La Voix de celui qui crie dans le désert. La Voix de celui qui crie dans le désert, une émission hebdomadaire préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques. Nous voulons vous faire découvrir la valeur, la beauté et l'excellence de l'Évangile. Avec vous, Sœur Marceline Alexandre, dans une courte prière.
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, à toi seul, la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités. Voici, Seigneur, l'émission, la voix de celui qui crie dans le désert, de bénir le pasteur Serge, ainsi que tous nos auditeurs, que ton esprit puisse illuminer leur âme et qu'ils soient édifiés. Nous bénissons, glorifions, exaltons ton nom, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Alors, nous voici de retour dans notre émission préférée, La Voix de celui qui crie dans le désert. N'oubliez pas, nous sommes en train de traiter avec vous le sujet suivant, les sept je suis. Les sept je suis. Je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 et 9 à 9. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 à 9. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1. La continuer. La semaine dernière, nous avons vu « Je suis la lumière du monde », Jean 8, verset 12. Et nous avons vu encore « Je suis la porte des brebis », Jean 10, verset 7 à 9. Ce sont ces deux sujets que nous avions traités la semaine dernière. Pour cette semaine, nous allons voir un autre sujet, un sujet de plus, un ou deux sujets de plus. Nous allons voir « Je suis le vrai cep », Jean 15, verset 1, à continuer. Et si nous avons du temps, assez de temps, nous verrons « Je suis la résurrection et la vie ». Et puis encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Dans les approches que nous avons faites la semaine dernière, nous avons aussi considéré un autre verset en Genèse. En Genèse 1er, verset 3, « Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Nous avons fait une étude de la lumière et nous avons considéré que la lumière parcourt 300 000 km par seconde. Et la lumière prend à peu près 8 minutes pour parvenir à nous, la lumière, en l'occurrence la lumière du soleil. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, nous avons considéré qu'il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas un accord de temps entre ces deux paroles prononcées par le Logos, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit, ça a été la première seconde de l'existence. Et puis après, nous avons un passé simple, que la lumière et la lumière fut. Nous avons considéré que, en disant ces paroles, que le Logos n'avait même pas encore terminé en la parole qu'il a prononcée, que le cosmos, que la création est venue à l'existence. Et la création est venue à l'existence à une vitesse vertigineuse. C'est ce que les scientifiques ont vu quand ils étudient la matière, qu'ils ont considéré comme le Big Bang. Mais nous disons que ce n'est pas un Big Bang, c'était une création, c'était la prononciation du Logos, la manifestation du Logos, qui est la parole de Dieu, en prononçant que la lumière soit et la lumière fut, et que la création est venue à cause de la parole du Logos à l'existence, à une vitesse vertigineuse. Donc nous disons création, non pas évolution. Nous avons la preuve mathématique de l'existence de Dieu avec Voltaire qui disait que qui parlait de l'horloge et son horloger. Et Voltaire nous disait que l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Notre monde est réglé comme une horloge, de nombreuses lois physiques le prouvent. Le hasard ne peut vraiment pas former cette création. C'est ce monde ou cet univers multidimensionnel. Les lois sont trop rigoureuses pour qu'il soit un hasard. Car le hasard ne parvient même pas une fois sur un million. Les lois sont trop rigoureuses, trop rigides, et s'il en manquait une seule de ces lois, ce serait la catastrophique, ce serait la fin de ce cosmos qui est si merveilleux. Quand nous avons parlé de lumière, nous avons vu que le soleil, la plus grande lumière que nous connaissons sur la planète Terre et qui est plus proche de nous, que le soleil est à la source de la vie sur la planète Terre. Et cela à double titre. Aujourd'hui, l'énergie lumineuse qui en provient est le carburant premier du cycle de la photosynthèse et de la respiration. Nous avons vu aussi que la photosynthèse et la respiration, la photosynthèse, c'est la transformation par les plantes de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Nous avons vu aussi que nos aliments n'existent que parce que la lumière du soleil atteint les plantes vertes. Nous avons vu aussi que le pétrole que nous consommons est issu de ces plantes, aux fûts accumulés par elles il y a bien longtemps sous forme de charbon, d'huile ou de gaz naturel. Nous avons vu aussi, et nous l'avions déjà mentionné, que le soleil, c'est ce qui permet aux plantes de produire de l'oxygène pendant la journée et d'absorber le gaz carbonique et qui permet aux plantes d'apporter la vie sur la planète. Car la respiration, c'est l'élément la plus importante pour les animaux et les végétaux sur la planète Terre. Nous avons vu aussi que le soleil, sans le soleil, il serait impossible à la vie sur cette Terre, car la Terre serait une masse glacée, une masse de roche glacée, et il n'y aurait point de vie, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Et actuellement, que la Terre, c'est la seule planète que nous reconnaissons qui a la possibilité de la vie, la possibilité pour les hommes de vivre et aussi avec les animaux. Nous avons vu que c'est grâce au soleil qui réchauffe l'eau de la mer et l'eau des rivières et qui permet que cette eau puisse se transformer en nuages ou en gaz et qui retombe sur la terre sous forme de pluie pour pour la refroidir, mais aussi pour faire germer les plantes, car c'est le soleil qui fait tout ce travail. Là, on voit aussi que le soleil reçoit la lune reçoit la lumière du soleil le soir et le reflet sur la terre, non seulement pour comme lumière pour éclairer la terre, mais aussi pour faire germer les plantes, car la lune joue un rôle important dans la germination des plantes. Nous avons vu toutes ces choses et nous avons considéré que sans la lumière du soleil, la vie serait impossible sur cette terre. Et quand Jésus parlait et disait que je suis la lumière du monde, il voulait nous montrer son importance, son indispensabilité dans notre existence, mais il ne parlait pas seulement de la lumière physique, la lumière du soleil que nous avons, mais aussi cette lumière spirituelle dont nous avons besoin pour nous diriger dans les ténèbres de cette existence. Car il a dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres de l'existence, c'est la vie que nous menions auparavant, cette vie qui nous amenait directement à la mort, pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Mais avec Jésus qui nous éclaire, avec sa parole, avec sa puissance, nous pouvons marcher dans la vérité, nous pouvons marcher dans la lumière, et cela nous sauvera la vie, non seulement la vie ici-bas, mais aussi la vie éternelle, car les ténèbres spirituelles sont plus grandes que les ténèbres physiques. Nous avions vu aussi dans Jean 10, versets 7 à 9, « Je suis la porte des brebis ». Nous avons fait des approches sur cette métaphore de la porte considérée par le Seigneur, et nous avons vu que la porte, c'est l'entrée principale d'une maison. La porte, c'est la partie la plus importante d'une maison, et peut-être la partie qui a été construite la dernière. Nous avons vu que la porte aussi, c'est un symbole de sécurité. Elle ferme et ouvre la maison et ça donne accès aux gens. Nous avons vu que la porte aussi a ce qu'on appelle la clé. La porte, avec la clé, on peut fermer et ouvrir la maison et donner accès à qui l'on veut. Nous avons vu aussi que le propriétaire et la famille du propriétaire, ce sont eux qui ont la clé. Ce sont eux qui peuvent avoir accès à la maison quand ils le veulent. Et on voit aussi que la porte est symbole de fortification. Dans les châteaux, en palais, il y a des portes en fer, il y a des portes blindées. La porte aussi est un symbole de fortification. En considérant l'élément de porte, cette métaphore utilisée par le Seigneur, nous avons vu qu'en Éden, en Genèse, la porte du ciel a été fermée en Genèse 3, quand nos parents, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la porte du ciel nous a été fermée. Et nous avions eu en la loi comme une muraille de séparation avec Dieu, une muraille de séparation avec Dieu et les hommes. La loi, c'était la colère de Dieu. Et nous avons vu que la jurisprudence implique que la sentence de la loi soit appliquée dans toutes ses rigueurs. Car en Éden, il a été dit, Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna ce tord à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La sentence a appliqué à tous ceux qui ont mangé de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la mort. Pas seulement la mort éternelle, la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Et cette condamnation était pour tous les humains, pour tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui ont porté la nature adamique. Nous avons vu que les sacrifices étaient impuissants. Les sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché. Dans le temple de Dieu, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint était séparé du lieu très saint par une voile, et le sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint une seule fois par an, pour apporter les fardeaux d'Israël et aussi ses fardeaux, ses péchés, en l'occurrence ses péchés. Cela démontre que le sacrificateur n'était pas pur, le sacrificateur était impur, et aussi les sacrifices ne pouvaient pas satisfaire à Dieu. Donc l'imperfection du sacrificateur, il ne pouvait pas présenter un sacrifice parfait à Dieu. Mais nous avons vu qu'en Égypte, l'agneau pascal, que Dieu a donné à Israël, c'était le symbole du Christ, c'était le symbole de cet agneau sans défaut qui devait mourir pour nos péchés, et son sacrifice était parfait, car lui aussi, il était parfait. Par ce sacrifice, le Christ a ouvert la porte du ciel à tout le monde. Et nous avons vu que lors de sa mort, le voile du temple se déchira. Quand il dit que je suis la porte des brebis, c'est que la condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui, et par elle a ouvert la porte du ciel à nous tous, à tout le monde. Et nous avons vu que le brigand qui était sur la croix a été la première personne à entrer dans le ciel. Et nous avons aussi considéré comme les rois, les chefs d'État peuvent donner du pardon à un criminel. C'est ainsi que le Christ, le Fils de Dieu, nous a ouvert la porte du ciel et nous a offert le pardon, la grâce de Dieu, et que nous devrions en profiter de cette grâce pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, nous allons voir « Je suis le vrai cep ». Je suis le vrai cep, et nous allons lire pour vous Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé quelques passages, passages de littérature sur l'histoire de la vigne. Et nous allons commencer. L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'homme. La Bible fait de Noé le premier agriculteur, tandis qu'un récit babylonien vieux de 4000 ans parle déjà du vin dans la plus vieille œuvre littéraire connue. La vigne et le vin ont représenté un élément important des sociétés occidentales, intimement associé à leurs économies ainsi qu'à leur culture. Le vin est synonyme de fête, d'ivresse, de convivialité, qui a investi le vaste champ de valeurs symboliques est actuellement présent dans la majorité des pays du monde. Son existence est fruit d'une longue histoire mouvementée. La vigne sauvage est une liane qui poussait sur les arbres des lisières, les ripisylves, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Elle est apparue avant l'humanité et elle est toujours représentée en Europe par Vitis vinifera sylvestris, surtout en forêt rhénane inondée. Les premières traces de cèpes de vignes cultivées ont été relevées sur les flancs de Caucase, dans l'actuelle Géorgie, et date d'il y a plus de 7000 ans. C'est dans le village Chulaveris, Gora, qu'on a trouvé des vestiges de vignes et de vins antérieurs à 5000 ans, voire 5600 ans avant notre ère. La première représentation du procédé de vinification est le fait des Égyptiens. Il y a des millénaires avant Jésus-Christ, sur des bas-reliefs représentant des scènes de pressurage et de vendage et datant de 2520 ans avant Jésus-Christ. Après son implantation en Grèce antique, la vigne devient un élément essentiel de l'agriculture pour les Grecs. Il devient l'un des trois piliers de la trilogie méditerranéenne. Céréales, vignes, oliviers. Grecs et Phéniciens eux-mêmes, producteurs, implantent la vigne dans la totalité du bassin méditerranéen au cours de leurs nombreux voyages entre 1500 et 500 ans avant Jésus-Christ, surtout en Italie. Les Romains en développent la culture et mettent aussi son industrie. C'est lors de la création de Massalia, Marseille, aux environs de 600 ans avant Jésus-Christ, que les Phocéens implantent la vigne dans la Gaule celtique. L'avancée romaine en 125 avant Jésus-Christ, le long du couloir rhodanien vers le nord, ainsi qu'à l'ouest vers le Languedoc, vers la diffusion de la vigne et le développement de son industrie, Narbonne au Port-Vent. La plantation de la vigne a commencé il y a longtemps et nous l'avons vu. Ça a commencé avec l'histoire de l'humanité. Nous avons vu qu'auparavant, la vigne était une vie sauvage, qui les lianes devaient grimper sur les arbres, sur d'autres arbres, et sur le sol, dans la rivière, etc. Mais nous avons vu que l'homme a commencé à planter la vigne, à faire de lui une culture importante en ajoutant le cep qui permet à la vigne de grimper, qui permet à la vigne d'avoir une poussée verticale vers le haut en ajoutant le cep qui le maintient. Chers amis, nous allons faire une pause et nous revenons avec vous.
Mais chacun veut trouver sa propre issue. Les discours de fraternité se noient dans le brouillard. Pour nous libérer, Jésus est venu. Dieu prépare un peuple qui se consacre à lui. Proclame son amour, sa compassion.
Chers amis, nous sommes de retour dans notre émission, toujours avec vous, dans le sujet suivant, en les sept je suis. Nous sommes en train d'étudier cette partie intitulée « Je suis le vrai cèpe ». Et nous sommes de retour, nous allons étudier les différentes parties d'un arbre, ce qui nous permettra de comprendre quand Jésus parle du vrai cèpe, pourquoi il a pris cette métaphore. Un arbre est un être vivant qui se nourrit, respire, grandit, se reproduit et meurt. Un arbre est composé de racines, d'un tronc, de branches et de feuilles. Les racines, qui sont la partie cachée du végétal, servent à fixer l'arbre dans le sol, à lui assurer son équilibre et à le nourrir. Plus un arbre est grand et gros, plus ses racines doivent être vigoureuses et longues. L'arbre aspire l'eau et sa nourriture par ses racines. À la sortie du sol s'élève le tronc. Le fût est la partie lisse de l'arbre, celle qui est dépourvue de branches. Le tronc porte les branches et les feuilles. Il les porte en hauteur et se déploie aussi le houppier. Ce terme de houppier est donné à l'ensemble des branches. Quant au sommet de l'arbre, on l'appelle la cime. Chaque année, le tronc de l'arbre s'épaissit. Du printemps à l'automne, les couches de bois poussent sous l'écorce. Si tu observes une souche d'arbre, tu apercevras des anneaux que l'on appelle cernes de croissance. Chacun d'eux marque la fin d'une année de croissance. Il suffit de compter les anneaux pour déterminer l'âge de l'arbre au moment où il a été abattu. Le tronc et les branches sont recouverts d'écorce. L'écorce est le manteau de l'arbre. Il le protège contre le vent, la pluie, le gel. Ce manteau est lisse et rugueux, Il est noir ou gris ou blanc. Tous les arbres ont deux couches d'écorce, une extérieure, l'autre intérieure. C'est par l'écorce intérieure que les matières nutritives passent au tronc et aux branches. Ramures, branches et rameaux d'un arbre, cime, partie la plus haute de l'arbre, feuillage, ensemble des feuilles, branches, forte ramification du tronc d'un arbre, tronc, corps de l'arbre, fût partie de l'arbre entre les premières branches et le sol, ramure, division des rameaux, couronne, partie de l'arbre de la première branche à la cime, rameau, division des branches, racines latérales, ce sont les ramifications situées sur le côté et sous terre, servant à maintenir l'arbre en place et à le nourrir. Pivot, c'est la racine principale enfoncée verticalement dans le sol. Chevelu, partie de la racine qui est remplie de filaments. Radicelle, petite racine. Quand Jésus dit « Je suis le cèpe et mon père est le vigneron », et nous allons lire pour vous dans Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron », tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qui est le vigneron dont Jésus-Christ est en train de parler? Qui est l'agriculteur? L'agriculteur, c'est le Père. C'est Dieu le Père qui a envoyé, qui a placé le cèpe, ce cèpe, sous nos chemins, afin que nous puissions devenir une nouvelle œuvre, afin que nous ayons une nouvelle vie. Nous allons voir tous les travaux que devait faire un vigneron, un agriculteur, pour permettre que la vigne puisse avoir de bons fruits, pour permettre que l'arbre, le cèpe, puisse porter de bons fruits. La taille est le premier travail de l'année à la vigne. La taille de la vigne sert à donner une forme au cep et à la maintenir sur la durée. Elle permet aussi de réguler la production et le potentiel végétatif. Nous attachons beaucoup d'importance à une répartition régulière des rameaux afin que les feuilles soient exposées au mieux au soleil. Il faut une prise d'imagination pour anticiper la croissance des rameaux tout en prévoyant la taille de l'année suivante. Il faut bien ajuster chaque coup de sécateur afin d'assurer la pérennité du cep. Il s'agit de prévoir le futur du cep en appliquant faisant une bonne taille. La seconde étape du travail de l'agriculteur, c'est la plantation. La plantation d'une vigne est une étape incisive dans la vie du vigneron. On part du principe qu'un vigneron ne plante qu'une fois la même vigne. Les ceps restent en règle générale 25 à 40 ans en place. Il est donc important de se faire quelques réflexions avant la plantation. Quel cépage convient à cette parcelle? Lequel pas du tout? Quel vin peut avoir du succès? Quel système de taille vais-je adopter? De quelle mécanisation vais-je disposer? Les réponses demandent quelques connaissances agronomiques et de l'expérience. La troisième partie du travail du vigneron, c'est l'ébourgeonnage. Comme toute plante, la vigne cherche à produire un maximum de fruits pour garantir la survie de l'espèce. Si on laisse pousser tous les rameaux, il en résulterait une énorme quantité de feuilles et de fruits. La qualité du raisin serait fortement diminuée et la vigne s'épuiserait beaucoup trop vite. Pour établir un certain équilibre, on enlève les jeunes pousses surnuméraires. Les bourgeonnages se font avec le même état d'esprit que la taille, c'est-à-dire en anticipant le développement du cep. Assez souvent, on trouve des surfaces disponibles limitées pour la culture de la vigne. Donc, on a commencé à cultiver la vigne verticalement. Or, cette dernière est une liane qui préfère croître le long du sol ou en montant dans les arbres. Il a donc fallu inventer différents systèmes de soutien. La grande majorité des vignes est conduite sur des fils et de fer parallèles. Le travail de palissage consiste à enfiler les rameaux en croissance entre ces fils de fer pour assurer une croissance verticale. C'est un travail à répéter durant toute la période de végétation. La quatrième partie qui fait le travail ou l'objet de travail de l'agriculteur, c'est l'effeuillage. L'effeuillage, ce travail consiste à enlever certaines feuilles et pousses dans la zone des grappes. Pourquoi cela? Avec l'avancement de la croissance, la zone des grappes devient plus touffue. Les précipitations et l'humidité ambiante favorisent un microclimat propice aux champignons, telle la pourriture grise. On imagine bien que des spores de pourriture n'ont pas un effet positif dans le vin, sans parler de la perte de récolte engendrée. Le meilleur moyen pour éviter ces maladies dans les grappes est de changer ce microclimat en enlevant des feuilles. En ayant une zone des grappes plus aérée et grâce à l'action bénéfique du soleil, cette zone sèche plus rapidement et les champignons peuvent moins facilement se développer. La cinquième partie qui fait l'objet du travail de l'agriculteur s'appelle les vendanges. Les vendanges sont sans doute le plus connu et le plus attendu des travaux de la vigne. C'est la dernière étape de l'année viticole. On prend bien soin de choisir le moment idéal pour récolter le raisin en fonction de sa maturité, taux de sucre, acidité. Les vendanges sont un moment de travail intense. Les raisins sont récoltés dans des caissettes et transportés à la cave en évitant au maximum le tassement. Là, le raisin est pressé ou égrappé en fonction du type de vinification choisi. Tous ces travaux doivent être effectués par l'agriculteur afin d'assurer que le vin que la vigne puisse avoir du succès, qu'il peut porter de bons fruits. Qui était le vigneron et qui était la vigne de Dieu, la vigne du Seigneur dans l'Ancien Testament? La vigne du Seigneur, la vigne de Dieu, c'était Israël dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire pour vous dans le psaume 80, verset 6, à continuer. Mais relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elles étendaient ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons pas de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. La vigne de Dieu, c'était Israël. Et le cep que Dieu avait planté dans sa vigne, le cep que Dieu, sur lequel Israël était branché, ça a été Jésus-Christ, ça a été le Fils de Dieu, qui est le cep, qui est le vrai cep, et son Père est le vigneron. Mais nous devrions remarquer, nous allons faire un peu de botanique, il y a une sorte de greffage. Le greffage s'est fait quand Dieu nous a enlevé, nous qui avions été dans la vigne sauvage, nous qui avions été branchés dans la vigne sauvage, dans le cep de l'iniquité, et Dieu nous a retranchés sur le cep de l'iniquité et nous a branchés sur le cep de la vie, sur le vrai cep. Dieu a fait une sorte d'opération en botanique qu'on appelle le greffage. Il nous a donné une autre souche, il nous a donné une autre racine, il nous a donné un autre cep. Quand Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc Dieu nous a greffé sur ce cep, sur ce nouveau cep. Et nous devrions porter maintenant des fruits nouveaux. Nous devrions porter des fruits des fruits dignes de la racine, dignes de l'arbre sur lequel nous sommes plantés, sur lequel nous sommes greffés. Donc, quand il dit que nous devrions demeurer en lui, attachés sur lui, de même que les rameaux, les branches ne peuvent pas porter des fruits, car ils ne recevront pas, s'ils ne sont pas restés branchés, s'ils ne sont pas restés attachés sur le cep, ils ne pourront pas porter de bons fruits, car ils ne recevront pas assez de sève, ils ne recevront pas assez de nourriture pour pouvoir produire des fruits. De même que nous-mêmes, nous les chrétiens qui sont greffés en Jésus-Christ, nous devrions rester attachés en lui afin que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance, afin que nous pouvons porter des fruits de l'Esprit. Et sa parole qui est en nous, sa parole qui est la sève qui coule en nous, doivent nous changer, doivent nous donner de nouvelles directions, doivent permettre que nous pouvions porter des fruits dignes de la repentance, les fruits de l'Esprit. Et nous allons lire en Galates, verset 5, nous allons lire les fruits de l'esprit que nous devrions porter. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En demeurant sur le vrai cep, en demeurant sur le cep que Dieu nous a greffé, dont Dieu nous a greffé dessus, nous pourrons porter de bons fruits. C'est à travers ces fruits que le monde verra que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des enfants de lumière, que nous avons une bonne sève. Et ça permettra aussi que l'esprit qui est en nous, que quand Dieu nous dirige, l'esprit qui est en nous peut aussi ramener les autres au bercail. L'esprit qui est en nous peut aussi attirer les autres. Il faut remarquer que le premier mot que nous avons eu en Galates 5, verset 22, pour les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est cette graine que Dieu a plantée en nous. Et quand cet amour germe en nous, cela pourra permettre aussi à cet amour de germer dans le cœur des autres, de germer dans le cœur de nos frères et sœurs, ceux qui n'ont pas Dieu et qui sont plantés sur la vigne sauvage, et cela permettra à Dieu de les greffer sur le vrai cep, sur la vigne dont le Père, dont notre Père, Dieu, dont notre Père en prend soin. N'oublie pas que Jésus dit dans le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Et il dit encore, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Mais n'oublie pas, tout sarment qui est en Christ et qui porte de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Pour ce passage, n'oublie pas que nous te disions que nous étions des branches de la vigne sauvage et Dieu nous a greffés sur la vraie vigne, c'est le vrai cep, et Dieu nous a donné une autre nature. Si nous ne portons pas de bons fruits, cela ne glorifiera pas Dieu, cela ne viendra pas de la nature, de la nouvelle nature que nous avons, car la nouvelle nature que nous avons a une bonne sève et nous devrions porter de bons fruits. La vieille nature que nous avions quand nous étions sur la vigne sauvage, et nous allons lire pour vous encore en Galates 5, les fruits de la chair. Si nous continuons à produire les fruits de la chair, Dieu nous retranchera sur cette vie, sur ce cep. Dieu nous enlèvera de ce cep, et si nous ne portons pas de bons fruits, et nous serons jetés, nous serons brûlés au feu. Galates 5, verset 17 a continué, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que ne vous fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et nous continuons, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous avons vu qu'il y a une contradiction, il y a une opposition entre ces deux fruits. Il y a une contradiction entre ces deux ceps. le sceptre de l'iniquité dont nous avons hérité dans le jardin d'Éden, qui a été l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une opposition entre cet arbre et l'arbre, le cèpe que Dieu a planté en Jésus-Christ. Il y a une différence, il y a une contradiction. Ils sont opposés et ils ne peuvent pas produire de même fruit. Les fruits sont différents et les fruits sont opposés. Comme Dieu nous a greffé sur le vrai cèpe, le cèpe de la vérité, le cèpe de la joie, le cèpe de l'amour, le cèpe de la vie éternelle, nous devrions rester et demeurer attachés à ce cèpe afin que nous puissions porter de bons fruits qui sont les fruits de l'Esprit. Et si nous ne portons pas de bons fruits, comme Dieu a fait pour Israël, il nous débranchera sur le cèpe et on jettera au feu. Mais si nous produisons des fruits de l'Esprit, Dieu se servira de nous afin que nous puissions gagner d'autres âmes, d'autres frères et sœurs, afin qu'ils puissent voir la bonté, la grâce et l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, « Je suis le vrai cèpe. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'œuvre de Dieu sera manifeste en nous quand nous portons de bons fruits, car le travail du vigneron, le travail de l'agriculteur a été manifeste sur le calvaire quand il nous a donné le vrai cep, celui qui est mort sur la croix, celui qui a été enseveli et ressuscité, celui qui est en l'arbre de vie, Dieu nous a sur lequel Dieu nous a greffé, et nous devrions porter de bons fruits, car la sève qui sort de ce cep, c'est la sève pure, c'est la sève de Dieu, c'est la sève éternelle, c'est la sève sans tache, c'est la sève pure, le sang qui a été versé pour nous. Nous te remercions, nous te disons encore une fois de plus que nous reviendrons avec vous la semaine prochaine dans notre émission La Voix de celui qui crie dans le désert, et puis nous continuerons avec les sept Je suis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans tes bras,
avoir écouté. Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions aujourd'hui. Lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'intelligence, la sagesse. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit afin de pouvoir comprendre les choses éternelles, afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, la paix dont nous avons besoin dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de turbulences. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix afin de nous racheter. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité. Car tu as dit la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils, nous t'en prions, c'est lui qui vient et qui est au siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine pour notre émission. Chaque mardi, 7h pour 8h. On vous attend. Je vous attends. Merci, chers auditeurs.